Bon, Poula, je suppose que tu suis le Paris Saint-Germain. Je suppose que tu suis l'évolution des gardiens au Paris Saint-Germain. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu, notamment de ce qu'a vécu Gigi Donnarumma au PSG, avec un traitement horrible quand il est arrivé sur sa première saison. C'était un gardien surcoté qui valait pas le coup de la part du PSG de s'investir dessus. Et maintenant, c'est le meilleur gardien du monde. Alors, explique-moi, est-ce qu'il y a un juste milieu? Est-ce que c'est ça, le fait d'être gardien, ou est-ce que c'est seulement le fait d'être gardien au PSG qui est comme ça?
En fait, c'est le fait d'être dans un grand club, c'est tout simplement. Paris a franchi une étape ces 10 dernières années, je pense, avec les finances qui sont arrivées. Donc, forcément, je pense que quand tu es gardien au PSG, on ne te laisse pas assez de chance, de temps, pardon, pour t'exprimer vraiment. C'est soit c'est blanc, soit c'est noir.
Ok, d'accord. Donc là, pour l'instant, il est dans le blanc, Donnarumma. Faut qu'il profite un maximum parce qu'il sait que la claque noire va arriver dans pas longtemps.
Effectivement. Parce que du jour au lendemain, tu peux, comme tu disais tout à l'heure, soit t'es le meilleur gardien et le lendemain, t'es le plus nul, quoi.
Mais tu me dis, du coup, ça, c'est le fait d'être dans un grand club. Il n'y a pas de club où la pression, de club de dimension très, très haute en Europe, où la pression du gardien est un peu moins importante. On voit que sur les joueurs du milieu de terrain, par exemple, alors effectivement, ils sont exposés, mais on les sent moins seuls contre tous. Pour les gardiens, on sent que tu es tout seul.
Comment t'expliquer? C'est la vie du gardien de but, en fait. Si tu prends un peu l'exemple de, comment il s'appelle, Navas, par exemple, ça n'a pas été facile pour lui au Real.
C'est vrai.
Pourtant, il faisait des bons matchs. Il a gagné, je ne sais pas quoi, 4 Ligues des Champions, je crois. Et même jusqu'à là, il n'a pas été, comment dire. Pour moi, hein, Navas, ces 20 dernières années, fait partie des 6-7 meilleurs gardiens au monde. Mais jamais on l'a mis à cette place-là.
Mais pourquoi? Parce qu'il y en a d'autres qui ont eu des résultats bien moins importants, bien moins convaincants. Je pense à De Gea, notamment, qui, sur la durée, a eu du mal à rester au top, top niveau. Il a maintenu Manchester United à flot quand l'équipe avait de très gros problèmes défensifs. Donc, il était un très bon gardien. Mais comme tu me parlais de Navas, à chaque fois, on lui a mis soit Courtois dans les pattes, soit dans les rumeurs, soit De Gea qui devait venir. Finalement, ça, c'est pas faux au dernier moment. Comme si ça ne suffisait jamais. Est-ce que c'est des profils type pour lesquels on se dit, bah, lui, ça fera pas l'affaire, même s'il fait le travail?
Qu'est-ce que tu entends par profil?
Alors, j'ai pas envie de rentrer dans le cliché du racisme. Donc, je suis très prudent. Je suis très prudent, là. Je fais très attention à mes mots. Parce que je ne trouve pas, que ce soit uniquement une question de racisme. Pourquoi? Pour les gardiens, là que je t'ai cité, il y a la couleur qui compte. Mais qui je peux te dire d'autre? En joueur de foot, disons... Tiens, prenons Antoine Griezmann. Antoine Griezmann qui, pour moi, est actuellement, et depuis très longtemps, un joueur sous-coté. Pourtant, là, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas tout ça, mais c'est comme si on n'arrivait pas à le mettre du niveau de Neymar, par exemple, qui est un Brésilien, qui a le vent en poupe à chaque fois qu'il fait quelque chose de bien. Alors que Griezou est très bon pendant des années, très régulier. Je mets entre parenthèses son passage au FC Barcelone. Et on n'en parle pas vraiment pour le Ballon d'Or, par exemple.
Comment t'expliquer? Moi, si j'analyse tout ça, je me dis, bon, il y a une ramification entre les agents, les entraîneurs et les médias, si tu veux.
D'accord.
Donc si tu n'es pas dans ce réseau-là, forcément... Que tu sois bon, que tu gagnes 5 Ligues des Champions, tu passeras toujours en 3e ou 4e.
D'accord. Donc, même toi, nous, on a toujours ce côté un peu complotiste dans la tête en tant que fan. Vous, qui êtes des joueurs, toi qui es un joueur, tu as toujours eu cette sensation-là, qu'il y avait quand même un cercle de petite entente un petit peu sous la table où on se disait, bah écoute, tu le mets là, je te rends service, etc. Et que finalement, le foot n'est pas, le niveau sportif n'est pas le seul élément pour dire que quelqu'un mérite le Ballon d'Or, notamment, ou autre?
Bien sûr. Pas c'est caché, hein. Bien sûr, ça existe. C'est des choses qui existent.
D'accord. C'est important de le savoir. C'est important de le savoir. J'en arrive à toi, parce que toi aussi, tu as subi ce genre de choses pour moi. Ouais. Tu arrives au Paris Saint-Germain, on est en 2007, tu arrives en 3e gardien, si je ne dis pas de bêtises. Il y a Jérôme Alonso et Mickaël Landreau devant toi, dans la hiérarchie. Dis-moi, quel est le plus gros obstacle que tu rencontres dans ton adaptation à la vie dans ce club-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui était plus difficile?
Bon, pour commencer, moi, je suis quelqu'un qui... Je m'étais très facilement partout où je pars. Donc, quand j'arrive à Paris, j'ai la chance de connaître déjà l'entraîneur des gardiens, Christian Mas. Donc, mon intégration se fait très facilement. Après, je rencontre aussi les Sako, la génération de Mamadou. Donc, je passe plus de temps avec. Donc, c'est plus facile pour moi d'intégrer. Mais la difficulté pour moi, dès le départ, c'est les entraînements. Je n'ai pas eu l'habitude de m'entraîner comme ça. En Roumanie,
C'est-à-dire.
c'était. Bon, je veux parler plus spécifique, gardien de but, hein. J'avais quoi? On va dire en Roumanie, j'avais une séance d'entraînement par jour, mais pas spécialement spécifique au gardien de but. Arrivé à Paris, ma première séance, et après la séance, le coach Christian me dit non, 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 tu as quelques lacunes, il faut qu'on les rattrape très vite. Donc ce soir à 16h, tu as une autre séance. Par exemple, c'est des choses comme ça qui ont été difficiles dès le départ, oui.
Est-ce que dans l'hygiène de vie, le niveau exigé, les lacunes que tu pouvais avoir, je sais pas, je te l'ai dit au hasard, hein, mais jeu au pied ou jeu sur la ligne ou sortie après appréhension de la trajectoire d'un ballon, il y avait une lacune en particulière que tu avais, que tu as dû gommer dans ta vie de tous les jours ou pas?
Bon, au niveau technique, j'avais vraiment pas de lacune, hein, entre guillemets, parce que quand tu tapes mon nom sur Facebook, tu vois les vidéos qui sortent.
Ouais, je sais.
J'ai un bon jeu au pied. Ça,
Ouais.
l'étude de jeu, si tu regardes les matchs, tu vas voir, j'ai pas vraiment eu de lacune à ce niveau-là. Le problème que j'avais, c'était plus la concentration. Parfois, je n'étais pas concentré à 100% et ça m'a joué des tours.
Ok, d'accord. Effectivement, parce que tu sais, moi, j'aime pas les. Comment dire? J'aime pas les raccourcis. Donc, quand. Et il y en a beaucoup dans le football. Dans le football, tu fais une erreur, c'est t'es spécialiste de l'erreur. C'est un problème de jeu au pied, un problème de capter le ballon, un problème de contrôle orienté, peu importe la caractéristique. Quand tu fais l'erreur dans un moment important, ça te suit à vie. Même le meilleur, l'un des meilleurs, Steven Gerrard, sa glissade face à Chelsea, on lui sortira jusqu'à la fin de sa vie alors qu'il a réalisé plein de grandes choses. Avant qu'on arrive à cette étape des erreurs qui ont été compliquées à vivre, j'aimerais qu'on retrace un petit peu parce qu'il y a des éléments dont moi j'entends des bruits de couloir et je veux savoir avec toi si c'est vrai ou pas. Beaucoup d'autres gardiens qui m'ont parlé notamment de la concurrence avec Mikael Landreau qui était pas forcément très facile. Est-ce que toi t'as vécu ça ou pas? Est-ce que t'as vécu le fait d'une concurrence un petit peu pas déloyale mais pas aussi saine qu'avec d'autres gardiens?
Comment t'expliquer? Quand tu es un jeune qui arrive dans un club comme celui-là, tu tombes sur un monument comme Mika, ah, tu es obligé d'attendre ton tour. Hein. En fait, ça avait le recul aujourd'hui. Tu vois, je peux. Mais quand j'étais encore joueur, ouais, je n'acceptais pas. Je ne comprenais pas pourquoi. Je ne jouais pas. Alors que à ce moment-là, pas que je pouvais prendre sa place. Non, je pouvais jouer en Coupe de, c'est pas Coupe de l'UEFA ou un match en Coupe de France. Mais ça avait comment dire, avec le recul que je comprends que non. Quand tu es à ce poste-là, il n'y a qu'un seul qui joue, hein. Il n'y a qu'un seul qui joue. Donc, si tu vois un jeune qui arrive, qui a des qualités, tu te dis, bon, si je commence à laisser un peu de la place, il peut prendre toute la place, qu'est-ce que je fais?
Ah,
Je
il
ne
prend
laisse
toute la
pas.
place. D'accord.
Avec Mika, ça s'est bien passé. Que ce soit Mika ou Jérôme, ça s'est très bien passé. J'ai jamais eu de problème avec que Mika a coupé ou machin, jamais ça s'est. C'est juste qu'à un moment donné, tu as envie de jouer, donc forcément, quand tu ne joues pas, tu n'es pas content, quoi.
D'accord. Mais t'as pas eu de. Tu n'as pas eu de sale coup, t'as pas eu ce genre de choses, quoi. Il n'y a pas eu de coup dans le dos, il n'y a pas eu ce genre de choses.
Non, 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 non.
C'est important de le
À
dire.
ma connaissance, bien sûr, j'ai jamais eu un sale coup.
C'est important de le dire. Sous les ordres d'Antoine Comboiré en 2009, Grégory Coupet se blesse. On est contre Auxerre, si je ne dis pas de bêtises.
Je ne me rappelle pas, peut-être.
Tu entres en jeu et tu deviens titulaire parce que Grégory Coupet se fait une grosse blessure, très grosse blessure, qui prend du temps. Et toi, ça te donne ta chance. D'une, comment tu vis ce moment-là? Parce que finalement, t'es pas forcément préparé. Surtout quand tu es gardien de but, tu sais, c'est difficile de se projeter à rentrer quand tu es gardien de but. Comment tu vis ce moment-là? Est-ce que tu es pris de court? Est-ce que tu es prêt dans la tête? Comment tu le vis?
C'est une bonne question. Avant de parler de ça, je vais te parler de la nouvelle génération. Tu vois, de nos jours, il faut qu'un jeune, quoi, il joue deux, trois matchs et c'est parti, quoi. Alors que pour moi, surtout à ce poste-là, il faut mûrir. Mais mûrir où? Sur le banc de touche, en apprenant tous les jours. J'ai appris à côté de Mika quand c'était très compliqué. Mika me disait souvent, Edel, rappelle-toi de ces moments-là. Parce que quand tu vas jouer, ça va t'arriver. Donc, quelque part, j'étais préparé quand même, mentalement.
D'accord. Mika te disait ça.
Ouais. Parce que Mika, les gens oublient souvent, mais Mika a plus souffert que moi. Parce que c'était à cette époque-là, on a failli descendre en plus.
C'est vrai.
C'était pas évident. Donc, comme j'étais deuxième, chaque fois, il me disait, Edel, tu vois, quand je sors du stade, les gens crient, je sers-toi de ça. Demain, quand tu vois, rappelle-toi.
Ok. C'est bien que tu me le dises. C'est bien que tu le dises. J'aime bien rétablir les vérités, c'est important. Alors, tu me dis, du coup, il fallait mûrir sur le banc et on t'a préparé avant. Parle-moi de cet instant-là, alors. Ce moment où tu es projeté sur le terrain, on te dit, écoute, Greg est coupé, il faut, Greg coupé est blessé, pardon, il faut rentrer, c'est à toi de jouer. On parle du Paris Saint-Germain. Tu avais, si je dis pas de bêtises, pas connu un club de cette envergure-là, jusque-là. Est-ce que la pression est à la hauteur de ce que tu attendais depuis le banc ou c'est plus important?
Comment t'expliquer? Sur le coup, tu ne penses pas à tout ça. Hein? Et en
D'accord.
plus, comment te dire? Je suis bien placé quand Coupé se blesse. Donc, je vois vraiment la blessure. Je vois. Donc, j'entre sur le terrain. Je dis, bon, Coupé, il est blessé. Je vais jouer. Dans ma tête, je pense pas, non, c'est le moment de prendre la place ou machin. Non.
D'accord.
J'entre pour jouer parce que je m'entendais très bien avec Coupé. Donc, sur le coup, je pense vraiment à rien. C'est jouer. Je ne sais pas combien il restait. C'est pas 30, 40 minutes. Donner le maximum. Et après, maintenant, quand je suis rentré à la maison, j'ai vraiment pris conscience que, oula. Là, c'est une grande blessure. Il faut assurer pendant la période où on ne sera pas là.
Et le groupe avec toi, il est top.
Magnifique. Je t'ai dit, moi, je suis. Si on se voit aujourd'hui, tu vas dire, mais c'est comme si on se connaissait il y a 10 ans. C'était jusqu'à aujourd'hui, quand on s'appelle, par exemple, Samy Traoré, on s'est eu hier, on se rappelle des choses qui, je ne sais pas, il y a quoi, 12, 13 ans.
D'accord. Donc c'est un lien qui s'en va pas. Ok. Ok, c'est bien, c'est beau à dire. C'est beau à dire. Tout à l'heure, on a titillé un petit peu le racisme. C'est quelque chose que je prends très très au sérieux. Pourquoi? Parce que, en fait, je trouve qu'aujourd'hui, certains crient au racisme à tort et à travers, et je trouve que ça dessert la cause du racisme. Je t'explique pourquoi. Pour moi, quand deux personnes, peu importe les origines, se disputent, il suffit que ce soit une personne blanche, une personne noire. Il y a la tendance très vite de l'extérieur, du monde autour, ou même de la personne concernée, à dire oh, c'est du racisme, elle a voulu se battre avec moi. Alors que, pas forcément, c'est simplement deux personnes qui s'entendent mal et qui ont un différent. Je ne dis pas que le racisme n'existe pas, je suis bien placé pour savoir qu'il existe, mais je fais très attention quand je l'utilise, c'est pour ça que je n'utilise pas n'importe quand ce mot-là. Et là, on arrive dans un thème un peu particulier. On est en 2009. Donc toi, tu commences à t'établir vraiment dans l'effectif du Paris Saint-Germain. Tu as eu des minutes de jeu, des matchs de jeu. Et on vient déjà t'embêter. C'est-à-dire qu'on ne t'a jamais laissé tranquille. Et on vient t'embêter avec quelque chose qui revient très souvent vis-à-vis des footballeurs africains. En 2009, un ancien coach du Cameroun, je l'explique pour les gens, Nicolas Philibert, dit que tu as menti sur ton âge et ta nationalité.
Je te coupe pas. Il n'est pas coach. Il n'a pas de diplôme. Donc tu peux pas dire coach. Il n'est pas coach.
C'est un premier élément, c'est important que tu le dises. Prétendu coach, Nicolas Philibert, dit que tu as menti sur ton âge et ta nationalité. L'info est, attention, prise très au sérieux par la SSE, qui à l'époque décide de poser une réclamation après le match perdu face au Paris Saint-Germain, disant qu'il y a un problème avec ton identité. Je m'en moque de l'attitude de la SSE. À ce niveau de compétition, les gens sont parfois prêts à tout pour aller chercher des points. Je mets ça à part. Je dis pas ce que j'en pense, je mets ça à part. Moi, je m'intéresse à toi. Tu as dû aller deux fois au tribunal pour prouver que tu avais ta bonne identité, que tu n'as pas menti, qu'il n'y a pas d'usurpation d'identité.
Effectivement.
J'aimerais qu'on remonte cette histoire depuis le début. Est-ce que à ce moment-là, c'est la première fois que tu es sujet à ce genre de choses ou pas?
C'est la première fois. J'étais en Arménie, en Belgique, j'ai même signé à Bordeaux, te dire, et à Paris. C'est à Paris que ça arrivait, mais les trois autres pays, j'ai jamais, jamais, tu peux appeler, hein, on va te dire, jamais. En fait, comment t'expliquer? Tout part d'où? Ce soi-disant coach nous prend du Cameroun, nous sommes deux jeunes, en fait. Donc, il a un ami arménien qui lui dit, bon, on a besoin de deux jeunes joueurs africains pour rejoindre l'Arménie. Donc, un milieu et un gardien. Donc, moi, je suis pas au courant. Et en plus, c'est pas moi qui dois partir. C'est un autre gardien. Donc, on se retrouve en Arménie. Je te saute les détails parce que si je t'explique comment on a fait pour quitter le Cameroun pour l'Arménie, on arrive en Arménie, quoi, 6 mois après, on joue avec l'équipe nationale.
C'est moi qui te coupe. Moi, je veux pas que tu sautes les détails. Moi, je veux savoir comment tu arrives en Arménie.
Ok, bon, si tu veux. Déjà, pour quitter le Cameroun, ce n'était pas évident parce qu'on avait, je sais quoi, à l'époque, j'avais quoi, 16 ans? Tu ne pouvais pas quitter le Cameroun comme ça.
Ok.
Donc, on réussit quand même à prendre le vol pour Paris. Arrivé à Paris, on est bloqué parce qu'on n'a pas de visa.
Ok.
On n'a que le visa arménien. Donc, on nous met dans une salle et quoi? 6 heures après, on prend le vol pour l'Arménie. Tu t'imagines deux jeunes qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais pris l'avion, on se retrouve à Paris. Bon, bref, on arrive en Arménie, on est accueilli par le président de la fédération, on nous met à l'hôtel, bon, on dort. Le lendemain, on se réveille, on nous dit, bon, il y a entraînement. Je dis, mais il y a comment il y a entraînement? On ne comprend pas. Vous nous prenez, vous ne dites rien, mais demain, on arrive juste, il y a entraînement. On va s'entraîner avec les quoi, l'équipe réserve, je crois. Bon, ça se passe bien, mais on n'a pas de contrat. On fait. Je crois que nous sommes arrivés au mois d'août, si je ne me trompe pas, au mois de mai. Jusqu'au mois de décembre, on n'a pas de contrat. On
D'accord.
n'a pas de contrat. C'est au mois de décembre, quand le championnat s'arrête. Et parce qu'on a trouvé d'autres Maliens dans l'équipe. Ils vont aller en vacances. On demande que nous aussi, on va aller en vacances. Je dis non, 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 non. Vous ne bougez pas. Vous restez là. Comment rester là? Non, non, vous ne bougez pas. Il faut que vous signiez un contrat avant de partir. Je te passe le cap des salaires. Parce que si je t'ai dit le salaire, c'était. On signe un contrat de 3 ans, si tu veux. 3 ans. Jusqu'à là, on ne nous fait pas rentrer au bled. On reste en Arménie. C'est la première fois où je vois la neige et tout. Ah, ils sont mais. Donc, au mois de, je crois, janvier ou février, on nous sort des passeports arméniens. Là, on commence à se poser des questions. Pourquoi on nous sort des passeports arméniens? Le président nous explique, texto, il dit, on vous a fait venir ici pour jouer avec l'équipe nationale d'Arménie. Oula. Il dit, comment ça? Il dit non, non, non. Comme vous êtes venu là, c'est pour jouer avec l'équipe nationale d'Arménie. Au départ, on a dit non. Et on a été menacé. Je ne te dis pas avec quoi. Donc, on était obligé de jouer.
Vous avez été menacé pour jouer avec l'équipe nationale d'Arménie.
Comme tu entends.
Ah, c'est lunaire.
Ils t'ont menacé toi directement pour ta vie?
Nous étions deux, si tu veux.
Ah.
On était
C'est...
obligé.
Waouh. Comment tu sors de ça?
Je t'explique. Bon, comme. À cette époque-là, j'étais, bon, sans prétention aucune, hein, j'étais parmi les meilleurs gardiens européens à cet âge-là. Bon, forcément, chaque fois que j'allais jouer avec l'équipe nationale d'Arménie, j'étais repéré. Donc, je fais un essai à Paris. Je ne sais
OK.
plus qui était côté, c'est valide, je crois, à l'époque. Qui se passe bien, ben, on ne peut pas payer le transfert. J'ai fait un essai à Marseille, qui se passe bien, mais le transfert, ce n'est pas bon. Je vais à Istres. Pareil, on ne peut pas. Je vais à Bordeaux. Finalement, à Bordeaux, ils tombent d'accord, mais après, ils n'envoient pas la lettre de sortie. Donc, je quitte Bordeaux pour l'Arménie.
OK.
Mon histoire, laisse tomber.
Elle est incroyable.
À un moment donné, on en a eu marre. Donc, il y a un coach roumain qui arrive au club qui dit, bon, je coupe hein, parce que je ne me rappelle plus du tout. Il y a un coach roumain qui arrive, il dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Mais entre-temps, j'ai joué avec l'équipe nationale les U17, U19. U21 et l'équipe senior.
Wow. C'est fou. C'est fou. Bon, c'est toi qui me dis à quel point on rentre dans les détails, d'accord? C'est toi qui gères. Qu'est-ce qu'on te dit pour te menacer?
Bon, la menace, c'est quoi? On a sorti des sous pour vous. Donc, si vous voulez quitter l'Arménie pour rentrer chez vous, vous nous remboursez des sous. On demande quels sous. Nous, on n'a rien eu.
D'accord.
Nous, on ne sait pas comment ça s'est passé. On nous a juste dit, vous partez faire des tests en Arménie. Arrivé, c'est non. En fait, c'est après qu'on a su que non. Dès le Cameroun, déjà, nous, on était vendus, si tu veux. J'utilise le terme, vendu. Par qui? Par ce monsieur-là.
C'est vrai? Ah, c'est lui qui est dans le coup.
Tu crois qu'il sort de lui?
Ah ouais.
Depuis le départ, c'est lui.
Ah le foot. Ok. Mais c'est presque du trafic de personnes là dont on parle. Quand on vend comme ça des gens, et t'as raison, parce qu'à la rigueur, dans le foot, on parle de marché, on parle de vente de gens, mais là, c'est pas pareil. Là, on a l'impression qu'il vous vend, vous, en tant qu'être humain, voyez, on vous vend une identité, on vend plein de choses. On vend pas simplement vos talents de footballeur. Là, on vend vos ce que vous êtes, vous, vos personnes, c'est incroyable. Et donc, du coup, il a le culot de revenir, après tout ça, il a le culot de revenir pour t'embêter avec ton identité.
Attends. Donc, pendant tout ce temps-là, tout se passe bien pour moi, entre guillemets. Donc, je suis sollicité un peu partout. Donc, un jour, il vient en Arménie, on lui dit, bon, la situation, elle est très compliquée pour nous. Il faut que tu fasses quelque chose. On nous a dit que tu as touché ça, ça, ça. Bon. Il nous a dit, c'est pas vrai. Et on lui dit, bon, il faut aller voir le président. Comme ça, on négocie les contrats pour avoir un salaire, un meilleur salaire. Il nous a dit, OK, on allait jouer, je ne sais plus où, avec l'équipe senior, je sais plus dans quel pays, on faisait escale à Paris.
OK.
Dans l'avion, hein, il a dit, bon, je vais voir le président, je reviens. On a fait escale, il s'est levé, il est parti. On a regardé, tu vois le hublot là. Tu guettes et tu le vois descendre, il est en train de partir. Il n'est plus venu nous voir pour nous dire, bon, on a dit ça, il est parti. Ce jour-là, j'ai dit, bon, toi, comme tu es parti là, oublie-moi, c'est fini.
Oh, c'est incroyable.
Donc, j'ai fait quoi? Après ça, je devais aller faire un essai. Je devais aller signer à Benfica. Je suis pas allé à Benfica parce que on en avait marre. Donc, au lieu d'aller à Benfica, on est parti en Roumanie, au Rapid Bucarest. On a signé, mais comme il restait 6 mois de contrat, on était suspendu. Donc, on nous a suspendu. Bon, suspendu, tu n'as plus de contrat, je suis rentré au bled. Et mon agent à cette époque, c'était Christophe Enroté. Il a tout fait. Je suis remonté, je suis parti à la Gantoise. J'ai signé 2 ans et je ne m'y plaisais pas. Je suis quitté de la Gantoise, je suis parti en Roumanie. En Roumanie, on joue la Coupe d'Europe contre Paris et on tombe contre le Paris Saint-Germain, pardon, et je croise Christian Massi. Il me dit, mais Edel, qu'est-ce que tu fais ici? Je lui dis, écoute, je suis là. Il dit, non, 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 tu ne peux pas rester là. Je vais tout faire pour te faire transférer au Paris Saint-Germain. C'est comme ça que je suis transféré au Paris Saint-Germain.
Ah, c'est fou. C'est incroyable. Elle est incroyable, cette histoire.
Donc, je passe la première année au Paris Saint-Germain, il n'y a rien. Deuxième année, il n'y a rien. Comme par hasard, troisième année, quand je commence à jouer, je lui ai dit, bon, si tu veux, où tu veux aller, on ira, il n'y a pas de problème.
Mais pourquoi est-ce qu'il en a à ce point après toi? Parce que, à la rigueur, je pense que ce qu'il a fait avec toi, il l'a fait avec d'autres. C'est sûr.
Ça c'est sûr. Mais bon, ils ne vont pas se prononcer. Il y en a beaucoup, mais ils ne vont pas se prononcer. Ça,
Non. Mais alors pourquoi est-ce qu'il s'acharne enfin, comme ça sur toi? À la rigueur, t'es une tentative de business qui a mal tourné. Il tourne la page, il continue son business qui est aussi dégueulasse soit-il, mais il continue son business. Pourquoi est-ce qu'il s'acharne sur toi comme ça à aller te chercher quand t'es au PSG et que tout va bien pour toi?
pourquoi? Pose-toi bien la question. La réponse, elle est simple. De tous ces jeunes qu'il a ramenés du bled, je ne sais pas d'où, je suis le seul qui soit arrivé au PSG, entre guillemets, dans un grand club.
Donc c'est de l'orgueil, c'est de la jalousie, c'est.
Je ne peux pas te répondre. Hein. C'est le seul qui pourra, je ne sais pas.
C'est fou, c'est
Je ne
fou.
sais pas.
Mais alors déjà, il y a toute cette histoire que aucune personne au moment où cette affaire éclate n'a en tête. Personne du grand public qui entend qu'il y a un problème d'identité lié à toi, personne ne pense ça. Et je vais même aller plus loin, au risque de me faire taper dessus. Je pense que beaucoup pensent que ces accusations sont vraies. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui revient très souvent. Concernant les footballeurs ou autres d'origine africaine, c'est quelque chose qu'on entend très souvent. Pas plus tard qu'à la dernière CAN, on a encore eu un cas là de joueur accusé d'avoir menti sur son identité pour participer à la CAN. On a parlé de suspension et après seulement en toute petite ligne, il y avait écrit que finalement ces accusations étaient fausses. Comment toi tu vis ça au moment où ça arrive? Parce que tu m'as expliqué tout le cheminement de tout ça, tout ce que tu as traversé, mais au moment où cette histoire éclate au PSG, comment tu le vis toi?
Ah, je suis surpris d'abord, très surpris, parce que c'est juste, oui, contre Saint-Étienne, juste avant le coup d'envoi, on me dit non, monsieur Edel, les arbitres veulent te voir. Je dis, ils veulent me voir, pourquoi? Il dit, bon, on a un souci, on dit que vous avez, on me montre une photocopie, je ne sais pas de quoi, et vous appelez tant, tant. Je dis, mais est-ce que vous avez votre passeport? Je dis, non, je n'ai pas mon passeport, mais j'ai ma pièce d'identité, je montre ma pièce d'identité. L'arbitre, tu vois, on signe, on dit, bon. Ça, c'est pas à nous de gérer. Bon, nous, on a vu, il s'appelle tant, tant, tant. Je vais au match, on gagne. Le lendemain, j'ai mon agent qui m'appelle, il me dit, Edel, c'est. Je dis, je connais pas. Je ne sais pas ce qu'il raconte. Moi, je sais comment je m'appelle. Tu peux appeler ma mère, mon père. Moi, je n'ai pas changé d'âge ou je ne sais pas quoi. Donc, OK. Si c'est comme ça, on va aller. Non. C'est d'abord la Fédération française qui se renseigne, dont la Fédération camerounaise envoie, comment on appelle ça, le passeport. Donc, c'est l'identité du joueur. Donc, tout est nickel, il n'y a pas de problème. On joue contre Séville. Le même monsieur appelle Séville pour dire à Séville que non, ce monsieur-là, c'est. On va à l'UEFA. Je suis arrivé à l'UEFA, laisse tomber. On est assis, on dit, bon, monsieur, vous c'est qui? Je dis, bon, moi, c'est tel, tel. Il va entrer, on lui demande, monsieur, bon, je ne dis pas son nom, vous représentez qui ici? Vous êtes coach, vous êtes. Non, je ne suis pas coaché. Qu'est-ce que vous faites ici? Mettez-vous dehors. C'est ce jour-là que j'ai su qu'il n'était pas coaché. Hein. Parce que la Fédération française, on a posé la question. Il est licencié chez vous? On dit non. On ne le connaît pas. Bon. L'UEFA, Ils m'ont dit, bon, c'est bon, nous, on n'a pas de problème. Je rentre chez moi, moi, c'est que c'est fini. Non, c'est pas fini. Il est allé au civil. Et même au civil, j'ai gagné encore.
Ah ouais, là, c'est de l'acharnement. Ok. Bon, ça, c'est le déroulé. Mais toi, du coup, comment se comporte? Comment tu te sens vis-à-vis du groupe, vis-à-vis des fans, vis-à-vis des autres clubs, vis-à-vis du club même? Est-ce que le club décide de te soutenir? Est-ce qu'au contraire, on te dit, écoute, règle tes affaires et tu reviendras après? Qu'est-ce qu'on te dit?
Je vais pas te mentir, hein, le club m'a soutenu. C'est pas c'est comment c'est logique. Dans un groupe, il y a certains qui se posent des questions. Ça,
Oui, bien sûr.
je comprends, hein, je comprends. Il y a pas
Bien
de souci
sûr.
par rapport à ça. Mais que ça soit le club, les supporters et le groupe, ils m'ont soutenu. Pour te dire, il y a certains qui ont payé mon avocat de leur poche, c'est-à-dire ils ont pris des sous, ils ont dit non, ils ne sont pas d'accord avec ça.
Avec tout ce que tu as vécu, rien que cette histoire-là, tu t'es jamais dit, allez, j'arrête le foot, je pars dans autre chose, c'est trop moche.
Non, je suis un passionné, moi. C'est pas un truc comme ça qui va m'arrêter. C'est plus on va dire quoi? Ma copine qui est devenue ma femme maintenant, qui en souffrait, et mon agent. Il disait, heureusement que t'as pas encore d'enfant. Tu t'imagines si. Ouais, c'était très compliqué, mais je faisais le vide. Je suis un casanier, moi. Je sors pas trop. Donc
Ouais.
forcément, tout ce qui se disait dehors ou machin, soit je ne voyais pas, soit je n'entendais pas.
Ça explique comment tu as vécu le
Oui, il a été
reste.
dur.
Parce que ton passage au Paris Saint-Germain, malheureusement, les problèmes, ça s'arrête pas là. Mais ça, je suis très impressionné parce que, tu sais, je vois aujourd'hui comment on parle de... On entend des accusations à tort et à travers, et je vois que c'est vraiment pas facile à gérer. C'est vraiment pas facile à encaisser d'être accusé de mentir sur son identité, d'être un clandestin, d'être un sans-papier, de mentir tout simplement. Je pense que c'est compliqué à gérer. Donc, chapeau monsieur d'avoir tenu le coup parce que c'est pas simple.
Merci. Bon, je n'ai rien à cacher, donc.
C'est vrai, c'est une bonne chose. On vient ensuite, on l'a parlé en début d'interview, de la façon dont étaient traités les gardiens au Paris Saint-Germain. C'est pas que les gardiens, mais quand même, quand tu retraces tous les passages de gardiens, même depuis que le Qatar est arrivé et a repris le club en main, on sent que c'est pas facile d'être gardien au Paris Saint-Germain. Sirigu en a souffert, Trapp en a souffert, Areola en a souffert, qui d'autre, qui d'autre? Gigi Donnarumma en a souffert, Keylor Navas en a souffert, malgré leur niveau de performance qui était où il n'y avait pas forcément grand-chose à leur reprocher, ça a toujours été très dur. Est-ce que tu as senti une pleine confiance de la part des supporters, des médias et du club sur tes performances avant que viennent les erreurs, avant que vienne la première erreur, notamment face à Monaco?
Oh, oui, hein.
Tu sentais pas de doute autour de tes
Non, il n'y avait pas
performances?
de doute. S'il y avait doute, parce qu'en début de saison, je devais partir après à Boulogne-sur-Mer, je crois. Le club, il n'a pas voulu, hein.
D'accord, ils voulaient te garder parce que tu étais performant. D'accord, donc ça c'est une bonne chose. Alors, on arrive à cette erreur. Moi, mon but, quand je fais appel, quand je te contacte pour venir dans cette émission, c'est qu'en fait, j'ai toujours le souvenir de. Quand on me dit Apoula Edel, je dis ah ouais, Apoula Edel, c'était bien. Mais c'est celui qui faisait beaucoup d'erreurs, non? Ouais, c'est ça, c'est lui. Alors du coup, quand j'ai pensé à ton nom pour venir dans l'émission, j'ai dit, tiens, on va retracer le parcours d'Apoula Edel. Et je regarde les erreurs, je regarde les matchs, j'ai détaillé, attention, j'ai été allé sur Transfermarkt, vous verrez, il y a tous les matchs que les joueurs ont fait, et vous pouvez voir le détail des performances saison par saison. Alors je cherche, je cherche, je cherche, je cherche. J'arrive à la première contre Monaco. Je regarde le résumé, je dis, ok, c'est vrai, c'est une erreur. C'est une erreur. Ballon qui est centré et ça, tu veux ramasser la balle, ça tape ton pied, ça rentre dans le but. Une erreur. Deuxième erreur, elle est plus difficile à trouver, mais c'est face au Sporting Portugal. On n'est pas très longtemps après, je crois qu'on est dans la pré-saison de 2010-2011, si je ne dis pas de bêtises. Et je crois que c'est un mauvais contrôle sur une passe en retrait.
Oui, Samy me fait une passe. Bon, j'ai pas mon corps n'est pas bien positionné aussi. Donc, faut
Ok.
pas.
C'est une erreur, c'est une erreur.
Oui,
Comparé
c'est
à tous
bien
les matchs que
sûr.
tu fais, ça fait deux erreurs. Lyon, 2010-2011, celle-là, c'est la plus connue, je crois. Et je pense que c'est, à mon avis, tu me diras toi-même, mais je pense que c'est la plus douloureuse. Ou c'est une relance que tu fais. Le Paris Saint-Germain mène, je crois, 2-1 contre
Oui,
Lyon,
on
le
met
grand
2-1,
Lyon.
oui.
Et donc, gros résultat, surtout pour ce PSG-là, gros résultat. Et en fin de match, tu dégages sur Bafétimbi Gomis, à qui on fait un grand bonjour. Bafétimbi Gomis qui finit par te tromper en récupérant le ballon. Mais finalement, ça fait trois erreurs. Il y a trois erreurs.
On va dire quatre.
Pourquoi?
Moi, j'ai dit quatre.
C'est quoi la quatrième?
Rappelle-toi, on joue en Coupe d'Europe contre Benfica au Parc des Princes. Je crois que c'est huitième de finale
Ok.
Coupe de... où il y a un but au premier poteau, où je vais anticiper un centre et le mec il me met au premier poteau. Je vais chercher, mais bon, moi j'appelle CRR si tu veux. Il y en a
Ouais,
quatre, on va dire.
pour moi, tu t'es fait battre. C'est pas une erreur, pour moi, tu t'es fait battre. Mais si tu veux, on l'a. T'es indulgent ou t'es dur avec toi. Quatre erreurs. Quelle erreur est la plus douloureuse, toi, quand tu regardes par-dessus ton épaule? Laquelle a été la plus difficile à digérer?
C'est celle de Lyon.
Pourquoi c'est celle de Lyon?
Parce que je pense que, surtout à ce moment du match, et aussi parce que je crois qu'on passait premier, je crois.
C'est l'enjeu sportif.
Ouais, il y a tout ça. Il y a aussi qu'il y avait, on était sur une bonne dynamique. Je me suis en voulu hein, pendant, je sais pas, 2, 3 mois.
C'est ça que j'allais te demander. Ça quitte pas la tête?
Non, comment t'expliquer? On a un masque, si tu veux. Moi, je ne suis pas quelqu'un, quand je fais un bon match, tu vas me voir. Oh, non, je reste dans mon coin, je reste tranquille. Quand je fais aussi un mauvais match, tu vois. Donc, parce qu'après le match, j'ai senti dans le groupe que c'était dur.
C'est-à-dire qu'on t'en voulait?
Ah oui. Ils ne vont pas te le dire en face, mais il y a certains, oui.
Malgré le fait que finalement cette saison, ta saison, elle est bonne. Si on enlève cette grosse erreur-là, finalement, quand on regarde les matchs, ta saison, elle n'est pas mauvaise.
C'est la question que tu as posée avant, où tu parlais du racisme. Tu vois, il y a des moments où je suis pas raciste, hein. Je me suis posé beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions qui sont passées dans. C'est quoi? C'est parce que je suis. Ou alors c'est parce que je ne suis pas affilié à tel ou machin, je sais pas. Parce que je me posais beaucoup de questions. OK, j'ai fait ces erreurs-là. Mais l'année dernière, on a fini quoi? 16e, je sais plus, 14e. On gagne une Coupe de France, c'est moi qui joue encore. Et là, on finit quatrième, on fait entre guillemets une bonne saison. Mais en fait, c'est comme si tout ce qui avait été mauvais cette saison-là, c'était moi.
C'était toi. Parce que si on reprend les erreurs, les mauvais choix, les occasions ratées, les mauvaises passes de toute l'équipe, je t'assure qu'avec quatre erreurs, t'es pas en tête.
Mais je suis gardien de but. Moi, quand je fais une erreur, il y a but. C'est ça le
Ouais.
problème.
C'est ça qui est dur. C'est ça
C'est
qui est
pour ça que
dur.
je t'ai dit, je me suis posé pas mal de questions. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait vraiment? Pourquoi autant d'acharnement? Parce que après, j'ai quitté la France, je suis parti en Israël. Même jusqu'à là, quand tu reviens, oui, Edel, ça va, tu étais bon. Mais, quoi, mais? Le mais là, pourquoi? Il m'a fallu du temps pour digérer, hein? C'est bon pas, hein?
Donc tu me dis que c'est la plus dure. Tu me dis que t'as senti que le groupe ne te le disait pas en face, mais que c'était dur. Parle-moi des jours d'après, quand tu retournes à l'entraînement, quand tu dois retrouver le groupe, quand tu as assez cogité toute la nuit, toi qui as suivi le match, je suppose que tu as eu du mal à trouver le sommeil. Comment tu te sens quand tu retrouves le groupe jour après jour à l'entraînement et que tu sens justement cette et culpabilité de ton côté et ces regards un peu accusateurs de l'autre? Comment tu te sens?
J'étais pas bien, j'étais pas bien. Bon, j'avais la chance quand même que je m'entendais bien avec tout le monde. Donc, il y a Claude, que ce soit Claude, Coupé, Ludo, ou Samy, j'oublie certains, Peggy, Papus. La grande majorité du groupe, ils sont venus me voir et m'ont dit, hey, c'est des choses qui arrivent, il faut relever la tête et y travailler.
Toi, quand tu vois l'acharnement et médiatique et cette tension un peu dans le groupe, tu te dis pas, allez, c'est bon, je pars au prochain mercato, je m'en vais.
Non, je suis pas ce genre d'homme là, moi. C'est pas un truc comme ça qui allait m'arrêter. Non, 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 non. Je ne lâche pas les gens comme ça. Non, non. Moi, le plus difficile, ça a été, c'est les médias, en fait. Parce qu'après le groupe, ça, c'est des choses qui arrivent. On peut jouer un match où peut-être Guillaume, à l'époque, il rate un penalty, ça fait chier, quoi. Mais après, ça passe. Mais c'est les médias.
T'étais la
C'était.
tête de turc des médias un peu?
Ouais, il y a un, je ne vais pas citer son nom. Mais
Ah.
lui, je ne l'ai pas encore croisé en face. Le jour que je vais le voir en face, et je vais lui poser des questions. Il faut qu'il soit prêt, hein, parce que je vais pas le lâcher. Hein.
Donc vous, parce que tu me disais quand même en début d'interview, tu me dis, tu sais, je regardais pas beaucoup les médias, j'écoutais pas beaucoup ce qui se disait. Et je pensais que du coup, tu avais réussi à mettre la tête dans le trou, entre guillemets, pendant cette période-là et que tu n'avais pas regardé les médias. Mais là, tu me dis que les médias, ils t'ont fait mal.
Non, quand je dis les médias m'ont fait mal, c'est après, quand je suis parti de
Ah,
Paris.
ok.
En revenant,
D'accord.
c'était. Tu demandes, mais je suis même plus là. Pour te dire, jusqu'aujourd'hui, il ne passe pas un mois sans que, je sais pas, une chaîne de sport, il y a toujours, tu vois, il y a mon nom qui va sortir. Tu dis, mais. Hey, ça fait quoi? Ça fait 12-13 ans. Je joue plus, je suis plus au PSG. Laissez-moi tranquille.
Et ça, t'as aucune explication, toi, de à quoi c'est dû?
Non.
Ou tu as une explication que tu veux pas partager?
Non, 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 j'ai pas les... Non, c'est pas les... je n'ai pas. Je sais juste que tu t'es posé. Ah, peut-être je suis devenu Buffon, je sais pas, ou Casillas, je sais pas. Ou alors on en a qui à Manchester, je sais pas.
C'est vrai, c'est vrai. Mais tu me parles Buffon justement. Buffon est venu au PSG. Pour lui aussi, ça a été dur. Alors qu'il vient d'un grand club, il vient de la Juventus. Pour lui aussi, ça a été dur. Est-ce qu'il y a une... J'en parlais avec Sébastien Frey de la méconnaissance du grand public quant au poste de gardien de but. Est-ce que les gens en France qui suivent le foot ne sont pas assez nombreux à savoir ce que c'est que d'être gardien de but?
Oui, je pense. Il a raison. Il y a beaucoup qui ne savent exactement ce que c'est être gardien de but. C'est pour ça que j'ai dit, moi, on dit souvent c'est le poste le plus difficile, c'est le poste d'attaquant. Moi, j'ai dit non, c'est celui de gardien de but. Parce que pendant 90 minutes, tu peux être l'homme du match et en quoi, 30 secondes, tu te loupes. Rappelle-toi le gardien de Liverpool, là, comment il s'appelle?
Loris Karius.
Il est où aujourd'hui? Il est à Newcastle, mais il ne joue même pas.
Non, il est deuxième gardien à Newcastle.
T'as vu à quel niveau c'est arrivé? J'ai un fils aujourd'hui, je me pose des questions. Est-ce qu'il va jouer au foot?
T'aimes pas le foot que tu vois aujourd'hui?
Faut te dire. Il y a quoi, 2, 3 ans, je ne sais pas. J'ai regardé c'était quoi? Un reportage sur les champions du monde. Champion du monde 98, je crois. Il y a Emmanuel Petit, je ne sais pas s'il va se rappeler de ça, et on lui posait des questions, il était dans sa douche, il disait, si le foot a réussi à rassembler autant de millions de personnes dans seulement un ballon, pardon, le foot a pu rassembler tout ce monde-là, ça va être très compliqué. Tu t'imagines si on perd une Coupe du Monde, comment ça va se passer? Donc, il disait ça pour la jeune génération qui arrivait, en fait. Le foot a atteint des niveaux où seulement pour une erreur, on peut te tuer. Hein. Pourquoi?
C'est
Parce qu'il y a
vrai,
beaucoup de
c'est vrai.
sous.
C'est
Parce
vrai, il y a
qu'il y
des
a
menaces
beaucoup de
de mort.
sous.
C'est
Ce n'est
vrai.
que du sport, tu vois. Ce n'est que du sport.
Mais c'est vrai, t'as raison. Ça en arrive là. Ça en
C'est pour
arrive
ça que
là.
ta question, je n'aime pas le foot. Le foot en lui-même. Oui, ça va. C'est ce qui est autour, en fait. C'est qui est autour.
D'accord. Si t'avais le choix aujourd'hui, tu referais la même chose. T'aurais quand même signé au Paris Saint-Germain, t'aurais quand même vécu tout ce que t'as vécu parce que c'est... Ou est-ce que t'aurais fait autre chose?
Non, pareil, je ne change rien. Je
C'est
ne
important de le
change
dire
pas.
aussi. C'est important
C'est
de le
vrai que
dire.
c'était difficile, mais bon, ça fait partie de ma vie, donc je ne change pas.
En tout cas, sache que moi, après cette interview, quand on me dira Poula Idel, je dirais pas Ah, c'est celui qui fait des erreurs, je dirais Ah, c'est le mec qui est cool en interview.
Gentil.
Merci pour la confiance à Poula, franchement, ça me fait
Merci.
plaisir. Prends soin de toi, prends soin de ta petite famille, merci pour la confiance et je te tiens au courant pour la sortie. Ciao, ciao. Merci.